Je ne sais pas lire. Je ne sais ni lire ni écrire. J'aurais bien voulu faire courir les mots, mais ils m'ont toujours précédé, coulant, roulant, roucoulant, pour se déployer lentement dans un auguste envol. Je n'ai jamais pu percer le mystère de ces lettres entrelacées comme une sentence que prononçait la bouche terrifiante d'une gorgone courroucée. Lire et écrire, sans savoir quoi dire, sans savoir dire et taire le sublime, cela a-t-il un sens ? Lier et lire des lettres en délire, sans oublier de mettre les points sur des i dissipés, ce point d'orgue qui autorise toutes les audaces, ce point qui contient tout. J'ai lu pour vous un extrait de ce livre que je viens de faire publier à Alger, un livre qui a pour titre « J'ai failli égarer Dieu » et qui suit « La tangente impossible », deux ouvrages qui ne sont pas disponibles pour l'instant, malheureusement, enfin je dis malheureusement pour moi, ici à Montréal, mais en principe ça devrait se faire. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, merci d'être là pour ce printemps culturel nord-africain de Montréal, et particulièrement pour ce deuxième Maghreb du livre de Montréal, organisé, entre autres, par la librairie Olivieri et l'espace du livre francophone. Cette soirée présidée ce soir donc par Madame Hélène Fotopoulos, qui est conseillère de l'arrondissement Côte des Neiges, membre du comité exécutif de la ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et de la condition féminine. Bonsoir Madame. Alors je pense que vous allez nous dire quelques mots. C'est à vous.
Bonjour, bonsoir. Quel magnifique titre. C'est le printemps ici, surtout aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir d'être ici, puis j'avoue que je me sens très honorée d'être la marraine de la soirée. Surtout qu'on est ici avec des écrivains illustres, les gens connus des deux côtés de l'océan. Monsieur Ben Malek, bienvenue à Montréal. J'ai entendu dire que Monsieur Ben Malek était considéré comme une Dostoïevski de l'Afrique du Nord, la France. Ça, et quand j'ai dit ça, je lui ai fait part de ça. Il m'a dit quelques mots en russe. Et comme certains d'entre vous savent que vous savez que je suis aussi d'origine russe, on a pu échanger en russe. Donc, Dostoïevski, oui, mais on ne говорит по-русски. Donc, vous savez, ici sur Côte-des-Neiges, je suis très contente de me retrouver dans un milieu culturel qui s'est donné des racines ici dans ces librairies. Merci Rina, merci Isabelle pour tout ce que vous faites pour que, éventuellement, j'espère, notre Côte-des-Neiges devienne une pôle culturel avec une identité assez particulière aussi, qu'on sera capable de vraiment faire rayonner. Merci aussi à Mourad pour ton audace et aussi ta ténacité. C'est quelque chose, organiser des événements, je sais que t'es pas toute seule, mais pour que je sors le vendredi 5 pour un événement ici, ça veut dire il faut avoir confiance dans les organisateurs, puis ça, j'avoue, j'ai pas mal. L'histoire de Montréal. L'histoire de Montréal, c'est sa culture. Et sa culture, bah, évidemment, il y avait les peuples autochtones qui étaient ici avant nous tous. Après ça, il y a ce qu'on appelle la culture des Canadiens français, des Français, puis des Anglais qui sont venus ici, des Irlandais. Puis il y a également nous qui venons des quatre coins de la planète, qui ont amené nos histoires, nos cultures, et que maintenant, en quelque part, on trouve ses racines très cosmopolites dans la culture montréalaise. L'Afrique du Nord, c'est plus récent. C'est plus récent, mais c'est très, très riche et c'est une culture qui a besoin d'être mieux connue. Et surtout ces jours-ci où parfois il y a des préjugés pas tout à fait les plus souhaitables. Donc, il faut changer ces préjugés, il faut y parler des bons préjugés parce que ça aussi, on peut avoir des idées qui penchent de l'autre côté. Je pense que c'est en connaissant mieux les cultures et surtout par les écrivains qu'on sera capable de s'épanouir et s'enrichir. Pour ce soir, j'ai pensé peut-être faire une lecture, mais comme j'ai pas encore écrit mes mémoires, je trouvais que vous lire mes discours sera un petit peu trop un vendredi, quand vraiment les vedettes ce soir, c'est des artistes et des écrivains. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et s'il vous plaît, faites-nous rêver. Merci.
Merci Hélène Fotopoulos. Alors, vous le savez, c'est le deuxième Maghreb du Livre de Montréal. Ça prend l'ampleur. Il est placé sous la présidence d'honneur, donc de Mme Hélène Fotopoulos, avec un invité spécial, comme vous l'avez signalé. C'est Anwar Benmalek, qui est venu spécialement de Paris et qu'on salue. Et qui nous dira peut-être quelques mots. Je ne sais pas. Hein. Enfin, on verra. On va lui demander s'il veut bien. Enfin, on verra dans un petit moment. S'il sent l'ambiance, eh bien, il viendra nous dire quelques mots. Alors, ce soir, nous allons accueillir quelques auteurs que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, peut-être. On ne peut pas tout savoir. Hein. Vous allez les écouter, lire des extraits de leur œuvres. Et puis, je dois saluer notre autre auteur, Salah Benlabed, qui vient d'éditer un nouveau livre et que vous trouvez en exclusivité ici même à la librairie Olivieri. Et là, ça, il fallait le dire. Alors, il viendra en parler tout à l'heure, bien sûr, et nous lire quelques lignes de ce livre, « Ô combien de marins, combien de capitaines ». Alors, la parole maintenant est aux auteurs, auteurs et auteurs eux, parce que c'est comme ça au Québec. Hein. J'accueille tout de suite Mohamed Dakoujane, qui vient du Maroc. Il est venu spécialement du Maroc. Hein. Voilà, on peut l'applaudir, il est venu spécialement pour cet événement. Alors, oui, c'est... Oui. Venez, monsieur Akoujane. Vous pouvez nous dire quelques mots?
Oui, avec plaisir. Surtout, mesdames et messieurs, c'est avec joie que je suis ici pour je ne sais pas combien de fois. J'ai mes rejetons ici, n'est-ce pas? Mais je suis venu ici je suis venu ici pour la première fois en 1968. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Et aujourd'hui, comme je suis retraité, un peu croulant, bien sûr, j'ai commencé à meubler un petit peu mon temps et ma retraite en me hasardant à quelque chose dans un domaine qui n'était pas le mien. C'est l'écriture. L'écriture de mes souvenirs, de ce que m'ont raconté mes parents, de ce que j'ai vécu de visu, et de ma propre petite expérience de 41 ans dans des domaines assez variés. Et voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un de mes ouvrages qui est intitulé Le sang de l'œil. Vous allez vous étonner de ce titre. Mais c'est un titre qui en dit long, à cause de la souffrance, à une certaine époque, de notre cher nord de l'Afrique, qu'on appelle maintenant le Maghreb. Et disons, sa souffrance, aussi bien anté-coloniale, pendant la colonisation, et malheureusement, après la colonisation, comme tout le monde le sait. Et bon, je me suis attelé peut-être à une tâche qui est au-dessus de mes moyens. Et j'ai embrassé un domaine qui est un véritable océan. Mais je le vois. J'essaie de le voyer pour ne pas sombrer et pour essayer de présenter un miroir, une réalité que tout le monde a vécue. Donc, je pense que quelqu'un devrait...
Vous allez nous lire quelque chose, c'est quelqu'un qui va lire.
Oui, c'est quelqu'un qui va lire.
Très bien. Merci, M. Atouzani.
Alors, je vous préviens, c'est la première fois que je fais ça. Et je vous avoue même qu'il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé « Tiens, tu voudrais pas faire une lecture ?» Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Mais je pensais que c'était une lecture dans un salon avec 3-4 personnes. J'ai l'habitude de faire des lectures à ma nièce ou à quelques amis. Et là, je suis très impressionné. Hein. Ce qui n'est pas souvent le cas, puisque je suis prof, j'ai l'habitude d'être face à une audience, mais pas comme ça. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur. Le soleil avait réveillé la vie secrète de la montagne. Une faune discrète et abondante animait les bois. Les hommes marchaient depuis un bon moment. Les branches basses et les épineux leur battaient les jambes et la poitrine. Il fallait escalader le flanc abrupt de la montagne par un chemin qui enserrait les rochers comme un boa. L'énergie de leur corps, jointe à celle de leur espoir, leur permettrait peut-être d'atteindre bientôt le col. Ils estimaient les distances et mesuraient le temps comme pour tailler un instrument de précision. Le sentier était étroit. Il n'était connu que par les chèvres qui, guidées par leur instinct, parcouraient des distances insoupçonnées pour aller se délecter de feuilles tendres sur les hauteurs. Elles revenaient, battant la terre de leurs sabots robustes, traçant ainsi d'année en année, un chemin sûr et permanent pour des générations de caprins à venir. Orientées naturellement, elles arrivaient immanquablement chaque soir au village, offrant aux humains leurs mamelles gorgées de lait. Abou Ali et ses compagnons suivaient l'itinéraire tracé par les caprins, tantôt escaladant des falaises et tantôt s'engageant pliés en deux ou rampant sous la voûte des arbustes, dans un dédale juste assez large pour laisser passer un petit quadrupède. Comme une liane, le chemin tortueux montait sans fin. Il devait les mener droit au col. Leur marche forcée et ininterrompue devrait leur permettre d'amorcer, dès le déclin du jour, la descente par le versant sud de la Malou vers Igourdan. Ils pourraient réaliser la jonction avec la caravane avant Tindershal. Si tout allait bien, ils atteindraient le premier refuge avant la tombée de la nuit. Alors, Abou Ali pourrait obtenir de précieuses informations sur la position du convoi et peut-être sur sa femme aussi. Il n'espérait pas la rattraper, car les caravaniers déployaient des trésors d'ingéniosité pour écourter les étapes et gagner du temps. En cette période d'insécurité, la caravane pourrait à tout moment être interceptée par une patrouille. Elle serait alors dirigée tout entière vers un poste de contrôle. Ou pire encore, elle pourrait faire la fortune de quelques bandes de voleurs de grand chemin. Il était vrai que l'organisation de la résistance était sans faille. Toutes les précautions étaient prises pour assurer le maximum de sécurité aux voyageurs. Des femmes et de nombreux enfants faisaient partie du voyage. Mais en ces temps de grands bouleversements et d'incertitudes, les pires suppositions allaient bon train. Abou Ali était mu par une énergie miraculeuse, générée par un espoir irrésistible. Il pouvait marcher ainsi, accélérant le pas, sans jamais s'arrêter. L'envie de rejoindre son épouse dominait en lui tous ses soucis. Il l'imagina arpentant des sentiers de montagne, portant en son sein son enfant. « Un fils, pensait-il. Aurais-je bientôt un fils ? Je suis le seul homme de la famille. » viendrait-il prendre la place de Moha, ou de Mimoun, ou du valeureux Amjan? La vie de mes frères a été offerte pour le pays et dans le chemin d'Allah. Veuille-t-il me donner un fils ? Implorait-il bien souvent dans ses moments de concentration et de prière. Il ne sentait pas la fatigue et ne ménageait pas ses compagnons. Il les exhortait à suivre son rythme. Il voulait leur enlever toute velléité d'un arrêt ou même d'une halte, qui retarderait son plan. Ses compagnons, il les avait connus dans des circonstances qui marquèrent à jamais, comme une marque au fer rouge, sa vie et son être tout entier. Fin du premier passage. Début du deuxième passage. Il fallait que les enfants d'Abou Ali soient prêts à assumer leur rôle au sein d'une société qui saurait inculquer au genre humain le vrai sens du respect mutuel et de la valeur de l'homme à l'échelle universelle. Mais un monde où les différences seraient un enrichissement et non un motif de dissension, de discorde et de répulsion, et où on comprendrait enfin que les intérêts des uns résident dans la sauvegarde de ceux des autres. La solide expérience acquise par Abou Ali l'avait doté d'un esprit large, tolérant. Elle avait élargi avec le temps le champ d'action de ses analyses. Elle lui avait donné du recul et lui permettait ainsi de prévoir les événements en construisant des scénarios et en procédant par élimination et par probabilité dans le cadre d'une logique d'objectivité dont il ne se départissait pas un instant. Il traitait les choses sous toutes les facettes. Mais il les prenait toujours du meilleur côté. Il tenait à faire de ses enfants, comme il l'était lui-même, des combattants de la liberté. Mais il devait du même coup les éduquer dans l'amour de cette même liberté si précieuse, qui était leur élément vital. Il tenait aussi à développer en eux l'amour du pays et de la terre. Cet amour devait circuler avec leur sang, dans leurs veines. Il devait viscéralement le sentir comme lui, il le sentait. Ce faisant, il était conscient du fait que le temps filait vite. Les années succédaient aux années. La terre et les gens changeront donc immanquablement un jour ou l'autre. Car, quel que soit le nombre des années, la mouvance perpétuelle du temps n'épargnera rien sur la surface de la planète. Tout est sujet au changement et à la métamorphose. Inculquer à ses enfants la haine de l'occupant, tant qu'ils continuaient d'occuper leur terre, soit. Mais implanter dans leur cœur la haine pour le genre humain, il n'en était pas question. Car si l'on voulait la paix, il fallait la préparer de la meilleure façon qui soit. Pour Abou Ali, c'est la paix qui devra durer. Mais l'injustice, l'agression et l'occupation cesseront bien vite. Le monde sans les hommes est bâti sur la bonté et la générosité. Celui des hommes est déformé par les démesures de leur convoitise, générant dissensions, heurts et dévastations. Avec le temps, ce seraient d'autres générations qui allaient suivre pour être contemporaines de ces enfants. Ils ne seraient heureux qu'en portant dans leur cœur et dans leur esprit de bonnes intentions à l'égard des autres, et en le manifestant. Ils resteraient néanmoins armés de moyens adéquats pour rendre l'appareil à tout agresseur, d'où qu'il vienne. Il se promit qu'un jour prochain, il irait lui-même explorer le pays d'où étaient venus les agresseurs. Il pourrait alors peut-être en ramener quelques idées pour permettre à son pays l'accès aux progrès techniques qui leur avaient permis leur suprématie. Il se demandait si, en se mobilisant de la sorte pour investir tout un pays et la servir, il n'était pas allé droit chez eux. Il fallait en avoir le cœur net. Il fallait comprendre pour juger. Car, se dit-il, si l'on ne comprend pas, on ne pourrait plus juger. Le soleil déclinait peu à peu sur l'horizon. Les bergers rentraient des troupeaux disparates où mouvait le noir des caprins et le blanc sali des toisons des moutons, comme un remous dans des bols de café à la crème. Des corbeaux attardés volaient haut, en lançant des appels gutturaux à leurs partenaires, de crainte que la nuit tombante ne les sépare. Les sommets chauves des monts alentour portaient pour quelques instants encore des couronnes éphémères, d'or scintillant, sous l'impact des rayons du soleil couchant, présentant leurs roches affleurantes comme autant de colliers de pierres précieuses. L'eau de la rivière, comme un miroir cassé, renvoyait des parcelles de cette féerie en des reflets magiques. Le père et la fille étaient plongés dans leur contemplation silencieuse devant le langage secret de la nature, où l'harmonie et tant de beauté attestaient de la parfaite symbiose entre le fluide, l'éther et le solide. Tout à coup, la fillette se retourna vers son père. Elle s'approcha tout près de son visage et lui tira les poils de la barbe. « Papa, où se couche le soleil ?» Surpris, Abou Ali essaya d'abord une réponse enfantine, simple, se disant qu'une explication trop sérieuse n'était pas à la portée de la compréhension de son jeune rejeton. Mais devant l'air agacé de la fille, il se ravisa et lui dit « Il ne se couche pas, mais il va très loin de nous pour éclairer d'autres maisons et d'autres villages. Puis, il nous reviendra demain sans faute, comme d'habitude. Et demain sera un jour différent, car aujourd'hui sera mort avec la nuit. Le soleil court si vite vers on ne sait où, et nous l'accompagnons. Le Fkeh Si Ali de Lenda nous a dit qu'il s'arrêtera à sa destination, et ce sera la fin. Mais papa, et l'eau de la rivière? Est-ce qu'elle va aussi là où va le soleil? Non. Elle s'empresse d'aller auprès de sa mère, très loin d'ici. Sa mère est un grand lac sans fin, immense, qu'on appelle la mer. C'est de là que viennent les nuages, qui nous donnent la pluie, puis des sources, puis des rivières. Et pourquoi on appelle nos deux lacs Tislit et Isli? Parce qu'ils se marient chaque année, à la fin du printemps. Isli, le fiancé, envoie un bras vers Tislit, sa fiancée, et lui donne à boire. Alors elle est contente. D'ailleurs, ils s'aiment tellement qu'ils sont jaloux des humains. Une fois, de jeunes gens se sont mariés en hiver. Les deux lacs étaient endormis sous leur couverture de glace. Les deux familles du fiancé et de la fiancée formèrent deux cortèges pour se rendre à la nouvelle demeure de la jeune femme. Les deux groupes arrivèrent en même temps, l'un au milieu d'Isli et l'autre sur Tislit. Dérangés, les deux lacs se réveillèrent et rompirent la glace. Les deux cortèges sombrèrent sous l'eau. Les deux fiancés, seuls, survécurent. Et depuis lors, on célèbre la fête des fiancés à chaque Agadoud, près de Sidi Ahmed Oulemreni. Abou Ali se pencha pour voir si Fatima suivait son histoire. Mais la fillette dormait à poing fermé, au chaud, sous le pan du burnous de son papa. Avec précaution, il la prit, la serra contre lui et revint à la maison. Merci.
Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est la première fois. On va demander à ses élèves de le noter. Hein. Merci à Mohamed Akoujane. J'espère que vous avez apprécié cette lecture vous-même. Hein. Merci. Alors, Zahira Houfani, elle est journaliste. On va l'accueillir tout de suite. Elle est romancière. Elle va nous parler d'elle. Et puis elle va lire aussi quelque chose, puisque, évidemment, c'est un passage obligé. Bonsoir.
Bonsoir et merci. Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai. Hein. Quelqu'un m'aide, là. Merci. Alors, je vous dis Msel Khair aussi, Zulf Lawen. Et donc, mon nom est Zahira Houfani. Je suis au Canada depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est vrai qu'avant d'arriver au Canada, j'étais romancière chez nous. J'étais aussi journaliste. Mais j'étais versée dans la production de romans un petit peu différents, plutôt même très différents de ce que je fais ici. C'était le roman policier. Et en plus, il n'y en avait pas de femmes qui écrivaient des romans policiers, donc j'étais la seule. Je pensais, en tout cas dans les années 80, je pensais que c'était ma voix et que j'allais produire probablement un roman par an, comme j'entendais parler des autres écrivains de polar dans le monde, donc ça devait être simple. Et je prévoyais, en fait, je voyais ça dans le futur, alors bon. Finalement, comme il parlait de notre Maghreb, qui connaît beaucoup de problèmes, en fait, qui a déjà connu beaucoup de problèmes dans le passé, que son histoire est tout le temps tourmentée, mouvementée, etc. Donc, ça fait aussi changer le cours de la vie des gens. Alors, je me suis retrouvée au Canada. Évidemment, j'avais arrêté d'écrire parce que j'ai quitté mon pays dans dans une période très difficile, où il s'est déroulé en fait une tragédie très, comment dire, traumatisante pour beaucoup de gens. Et j'avais décidé de ne plus écrire, en fait, de ne plus faire de romans, de ne plus écrire, excepté quelques articles de journaux sur la question de l'Algérie. Puis, voilà le 11 septembre qui arrive et qui secoue, en fait, le monde avec les attentats du World Trade Center. Donc, je me suis retrouvée un petit peu aussi dans la vague et j'avais repris à ce moment-là ma plume de musulmane et je voulais un petit peu expliquer pas la genèse en fait de la violence islamiste ni même de la violence de la politique agressive des États-Unis, mais expliquer un point de vue que je trouvais manquant ici en Amérique du Nord sur les musulmans, sur la violence en fait qui dit-on, et génétique, et qui est un petit peu quelque chose de presque naturel, disent certains chez les musulmans. Alors je voulais remettre remettre un peu les choses en place et expliquer que la politique effectivement des États-Unis, par son agressivité dans le monde et par l'exploitation qu'elle faisait de beaucoup de ressources qui appartiennent à d'autres peuples, tout ça a préparé, si vous voulez, à plonger de nombreux peuples dans des situations très difficiles. Et j'expliquais aussi que s'il y avait eu l'islamisme en Algérie, c'est un peu aussi une conséquence des conditions de vie des gens, de la paupérisation des populations, parce que ceux qui connaissent l'Algérie avant les années 90, savent très bien que c'était un pays qui était très ouvert, qui avait fait beaucoup de progrès, qui avait émancipé les femmes. Je me souviens que dans les années 90, les femmes étaient dans les universités majoritaires comparativement aux hommes, ce qui n'était pas rien quand on sait que le pays a été colonisé pendant 130 ans et que 20 ans plus tôt, peut-être 30 ans au max, 95% de la population algérienne était analphabète. Donc, arriver à 30 ans plus tard à de tels résultats, pour nous, c'était quelque chose de très appréciable et nous étions très fiers de ça. Voilà, donc, là, je vais arrêter un petit peu l'histoire. Donc, après le 1er septembre, après le livre donc, que j'ai consacré au 11 septembre, que les gens, d'ailleurs, moi, je l'ai appelé « Lettre d'une musulmane au Nord-Américain », mais beaucoup de gens m'ont dit, en le lisant, que c'était plus l'être d'une tiers-mondiste aux Américains. Parce que ça parlait plus de politique, en fait, que de religion. Même si j'avais toujours un souci de parler de la communauté musulmane, un petit peu, qui était maltraitée, il y avait quand même beaucoup de politique qu'autre chose. Mais je ne vais pas vous lire le livre que j'avais consacré donc, au 11 septembre. Je vais vous lire mon dernier, quelques pages en fait, de mon dernier ouvrage. Mais je vais demander des lunettes parce que je ne peux pas voir sans mes lunettes. Alors lui, lui, je l'ai écrit sur l'invasion de l'Irak parce que j'ai eu l'occasion, en étant ici à Montréal, d'être déléguée en fait d'une organisation qui était multinationale, enfin organisation de plusieurs pays. Je ne vais pas dire multinationale, j'aime pas le terme. Merci beaucoup. Donc j'avais participé en tant que déléguée de Montréal à une organisation de paix en Irak. Puis j'ai vécu quelques semaines avant l'invasion de l'Irak. Puis je suis restée là-bas pendant l'invasion. Et je suis aussi retournée 4-5 mois plus tard pour un petit peu faire une série d'articles sur les conditions de vie des populations sous l'occupation américaine. Et ce livre-là, donc, c'est un petit peu le récit de cette expérience que j'ai vécue en Irak. Et je voulais, raconter l'histoire d'une petite fille parce que c'est elle qui m'a inspirée, en fait, tout le livre. Alors, je vais vous parler, elle s'appelle Jenen. Et je l'ai rencontrée dans un hôpital où les gens, en général, ne sortent pas vivants. Alors, voilà. Alors, c'est ici, à l'hôpital Al-Mansour, qu'échouaient les enfants atteints de leucémie. Non pas pour y être soignés, mais pour y mourir sans trop de douleur. Tout le monde savait que la mort de ces enfants était due à l'absence de traitement adéquat de cette maladie, un traitement dans lequel interviennent plusieurs composants, dont certains étaient malheureusement interdits à l'importation pour cause d'embargo. À titre d'exemple, la mine de crayon, nous avait-on dit, était interdite à l'importation sous prétexte qu'elle pourrait être utilisée avec d'autres composants dans la fabrication d'armes nucléaires. Bien des gens de par le monde, révoltés par tant d'arbitraires, avaient essayé de briser l'étau de cet embargo en vain. Il était toujours en vigueur plusieurs années plus tard et nous contemplions une de ses multiples facettes aujourd'hui en 2003. L'image de ces mères drapées de noir au chevet de leurs enfants dans ce sinistre couloir de la mort donnait le coup de grâce quant à l'avènement d'une justice humaine. Elles étaient jeunes pour la plupart, mais si abîmées par les afflictions et les deuils d'une vie sans répit. Elles semblaient revenues de toute forme d'espoir, acquises à une terrible résignation. La mort de leurs enfants, désormais inéluctable. Rien de ce qu'elles feraient ne changerait les choses. Quelle que soit leur détermination, la somme de leurs prières ou la furie de leur désespoir, le processus était hors de leur contrôle. À bout de force, elles avaient lâché prise, échappé le fil de vie de l'être cher, et voilà qu'elles se tenaient devant moi, tassées au coin des lits, comme des masses insignifiantes, se satisfaisant des moindres sourires captés sur les visages de ceux qu'elles savaient déjà sur le seuil de la mort. Tous les enfants de ce service n'étaient que des morts en sursis. Il y en avait une cinquantaine dans le pavillon. La seule différence entre les uns et les autres résidait dans la durée de ce sursis. Une semaine, un mois, deux, trois. Nul ne savait à l'avance quand le petit corps à bout de résistance serait consumé par la mort. Mais tous savaient que le pavillon des cancéreux n'était plus qu'un couloir de la mort. Moi qui me croyais plus ou moins aguerri, compte tenu des multiples expériences plutôt douloureuses qui avaient ponctué l'histoire de l'Algérie, mon pays d'origine, je pensais qu'après avoir traversé ces épreuves épouvantables que sont la guerre, l'injustice et la terreur, l'être humain cessait d'être vulnérable, comme si au contact de tant de souffrances, il se forgeait une carapace à l'épreuve des émotions les plus poignantes. Malheureusement, ou heureusement, je réalisais qu'il n'en était rien. Et dans mon cas, je n'étais vraiment pas au bout de mes peines, ni de mes larmes. La détresse des autres perça ma carapace pour se saisir brutalement de ma sensibilité. Était-ce en écoutant l'enfant de 11 ans, Mortad, faire état de son impatience de quitter l'hôpital, de retourner à l'école, de retrouver ses amis, et surtout de reprendre sa place d'ailier droit dans l'équipe de football du quartier. Il n'y avait que lui qui y croyait encore, tandis que nous tous, autour de lui, faisions semblant. Dur de l'écouter, et plus dur encore de faire semblant. Où était-ce en plongeant dans le regard si profond de Jenen, une fillette de 9 ans, maigrelette, qui s'appuyait nonchalamment sur sa maman, occupée à lui nouer un petit foulard sur la tête. Je m'étais approchée d'elle avec quelques crayons de couleur et le cahier de coloriage. Tandis que je feuilletais les pages pour lui permettre de choisir celle que j'arracherais pour elle, la fillette s'empara du cahier qu'elle glissa aussitôt sous son corps, en fixant sur moi cet immense regard au noir si profond. Je tentai un ou deux gestes pour récupérer l'objet, mais la fillette l'avait poussé sous son corps de telle manière que pour le récupérer, je n'avais d'autre choix que celui de la soulever. J'étais désarmée. Je renonçais à le lui prendre, sachant que de toute façon, nous devions tout récupérer à la fin de cette visite. Aussitôt, Karen, une des membres de l'organisation, me présenta le docteur Ben Saïd qui nous fit un petit résumé en fait de l'état des enfants du pavillon de la mort. Je sus avec une grande tristesse lesquels étaient susceptibles de mourir dans les heures et semaines à venir. Un bref regard autour de moi, c'en était plus que je ne pouvais supporter. Aussi, quand ma collègue me fit signe qu'il était temps de partir, le message avait pris l'allure d'une délivrance. Partir. Quitter cet endroit lugubre signifiait mettre une distance entre moi et la souffrance de ceux qui s'y trouvaient. Je ne me sentais pas le courage de résister à cette envie de fuir qui souvent prend le relais de nos faiblesses et s'accouple à l'impuissance. Oui, j'ai prouvé soudain un ardent besoin de quitter les lieux. Afin de me soustraire à la tourmente ambiante, d'un geste rapide, je pris aussitôt le sac et commençai à ramasser les fournitures. Arrivé devant le lit de Génène, je fixe tendrement la fillette et tendis la main pour récupérer le cahier de coloriage. D'un signe de la tête, elle refusa de me le donner. Je restais interdite, incapable de la forcer. J'aurais probablement laissé faire, sans doute, pour alléger mon sentiment de culpabilité vivace, comme jamais, dans cet endroit sordide. Mais nous n'avions pas le choix. Il fallait récupérer le grand cahier pour, en fait, donner des pages à tous les enfants du pavillon. Et on en avait juste assez. On aurait pu le lui laisser, pourtant fiche, remarquai-je, à la direction de la collègue qui était avec moi, parce que moi, il faut que je vous dise que c'était ma première visite dans cet hôpital, mais que les gens de l'organisation y allaient régulièrement toutes les semaines pour visiter ces enfants. Donc, ils font des activités avec eux régulièrement, mais moi, comme c'était la première fois, je n'étais pas prête, en fait, à retirer le cahier, puis à lui dire « je te l'apporterai la prochaine fois ». C'était dur, je ne pouvais pas supporter ça. Mais mon ami m'a dit « écoute, après quelques mois dans ce merdier, tu t'y feras ». Pour elle, c'était normal, il fallait que j'arrive à m'en sortir. De toute évidence, l'incident n'avait rien d'exceptionnel, sauf pour moi, évidemment. Que l'on ne puisse pas offrir un cahier de coloriage à un enfant sur le point de mourir ne semblait pas émouvoir outre mesure les personnes présentes, habituées sans doute depuis longtemps à toutes sortes de situations pénibles, voire insoutenables. Pas moi, pas ce jour-là. J'en étais profondément bouleversée. Ma déception venait également du fait que notre organisation n'avait pas de budget adéquat pour venir en aide à tous ces enfants. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai pris peut-être un peu de temps pour parler, donc je vais laisser d'autres prendre la place. Et je vous remercie aussi de votre attention.
Merci Zeyra Oufani, merci pour ce témoignage et cette lecture. C'est très émouvant.